De retour à Délirium environnemental, le magazine radio d'environnement. Hey, puis c'est la dernière, fait que profitez-en. On poursuit la revue de presse, revue de l'actualité. Un petit sujet, pas facile, mais un petit sujet, mettons, mignon. On s'apprête à planter des arbres à Montréal. Ça a l'air mignon à première abord. Par contre, c'est très important, les arbres, si vous le saviez pas encore.
Ah, les arbres, c'est important, mais disons qu'avant qu'ils se plantent un arbre à Montréal...
Il s'en est coupé une coupe.
Passée. La semaine dernière, le vendredi 22 avril, eh bien, dans la
jour
même
de
journée,
la Terre.
Jour de la Terre, eh bien, on apprend que Montréal va se doter d'une politique de l'arbre. Et la même journée, on apprend que l'oratoire Saint-Joseph, pour se faire une peau neuve, a coupé 90 arbres matures.
Ouh.
Ça, c'est un timing que notre mère Tremblay a pas dû aimer, mais bon.
L'Église est au-dessus de ça, franchement.
Et voilà. Alors, on va régler le cas, premièrement, de l'oratoire Saint-Joseph.
Il y a un nouveau pape, de toute façon.
Et voilà.
La belle Benoît.
Et lui, il multiplie les arbres, mais les arbres matures. Comme ça. Non, sans farce. L'oratoire Saint-Joseph, eh bien, a coupé 90 arbres, dont la plupart avaient plus de 50 ans. C'est sûr qu'il y en avait de malades, on va vous dire ça comme argument, qu'il y en avait plusieurs de malades.
Oui, mais voilà, sont-tu les gens malades?
Et voilà, on fait tout ça. Non, ben, faites après avec les arbres. Mais bref, en plus, c'est le bon Dieu qui a planté ces arbres-là.
C'est en personne.
Hey, pas d'affaire.
Non, mais je pense qu'il voulait faire des béquilles avec pour l'oratoire, là. Pour...
Ah, non, mais les gens, ils montent à genoux, de toute façon, ils n'ont pas besoin de béquilles.
Les béquilles qui sont à l'oratoire, c'est à cause du frère André qui a soigné des gens.
Bon, ben, le cours la semaine prochaine avec Sofiane Legendre sur l'oratoire.
Et voilà. Mais bref, on a coupé 90 arbres en promettant d'en planter le double. Alors moi, je leur disais, ben, plantez-en juste 90, puis tout va être beau comme ça. Sauf que c'était de très beaux arbres, des arbres dont plusieurs étaient qualifiés de patrimoine montréalais au niveau de la biodiversité, mais du patrimoine naturel montréalais.
Ils se sont engagés quand même à en planter
le double.
Si on coupait.
Mais ils vont être petits. Ça va être des petits chicots tout jeunes. Mais d'un autre côté, la ville se dote d'un programme de plantation d'arbres.
Eh bien, se dote d'une politique qui viendra, car présentement, cette politique est en consultation et elle devrait aboutir, disons, au courant du mois de juin, si la tendance se maintient.
À suivre.
Et bref, assez à suivre, mais ce projet de politique, dans le fond, vise à doter la ville d'une vraie vision en termes d'aménagement au niveau des arbres, de son couvert forestier. La ville se vante depuis des années d'avoir une des plus belles vues. Aussitôt qu'on va sur le Mont-Royal, on voit des arbres, et bien, il faut encore que ces arbres restent debout.
Et c'est tout à fait faux, par contre, de penser qu'on a beaucoup d'espace naturel ici à Montréal. Vous savez que si on protégeait la totale de tout ce qui nous reste d'arbres debout ici à Montréal, de milieux naturels, on n'atteint même pas 6% de l'ensemble de l'île. Vous savez que la moyenne mondiale de milieux naturels à protéger, c'est environ 12%. On accepte le 8% ici au Québec, vu qu'on est grand, puis on est gros. Sauf qu'en ce moment, si on protège la totale, c'est même pas 6%. Et vous savez qu'en ce moment, il y a un front qui est en train de se créer, un front vert, on l'appelle le front vert. En fait, plusieurs organismes qui se sont mis ensemble, des organismes de différents quartiers, de différentes régions de Montréal et de la banlieue, qui se sont mis ensemble pour dire, écoutez, ça pue de bon sens, on est en train de déboiser nos derniers espaces naturels. Et ce front vert est constitué, entre autres, du regroupement Sauvons nos boisés et milieux humides, qui a été extrêmement actif dans les dernières années. On en a souvent parlé. Projet Rescousse, la Coalition Verte, Nature Action, Fondation Rivière, qui se mettent tout ensemble pour finalement lancer une manifestation que je plug avant même le calendrier, puisque c'est un événement extrêmement important à mentionner, le 30 avril prochain. Ça va se rassembler à 1h à la Place du Canada, c'est le coin Peel et René Lévesque, justement pour protester sur cette situation critique de détérioration de nos milieux humides. Alors, c'est le 30 avril prochain, à 1h, Place du Canada, on s'en parle au calendrier.
Moi, je pense que ça vaut la peine de dire le nom. La nature débarque en ville, c'est le nom de la manifestation.
Et voilà, en fait, ça rime. Le 30 avril, la nature débarque en ville.
C'est beau. Et ça, bien sûr, les informations sont sur notre site internet au www.radiodelirium.net. On poursuit, donc on parlait de plan de développement durable pour la ville de Montréal. Peut-être poursuivre sur une petite nouvelle rapide, Nicolas Mainville.
Ben oui, en fait, Greenpeace et la CSDM qui se sont associés pour faire un programme extrêmement intéressant. Les écoles amies de la forêt boréale, vous savez que Greenpeace pousse pour des politiques plus intéressantes point de vue gestion du papier, se sont associés avec la commission scolaire de Montréal pour que certaines écoles se dotent de politiques d'achat de papier respectant l'environnement. Puis pour l'instant, on parle de papier constitué d'au moins 30% de fibres recyclées. Donc c'est un projet relativement novateur. On parle de 9 écoles de la la CSDM. C'est un début. Il y a déjà un projet pilote qui date depuis mars. Mais évidemment, ce serait extrêmement intéressant de voir ce genre de programme-là distribué à l'ensemble de la province, du pays, du continent et du monde. Écoutez, ces écoles un peu partout dans le monde sont les institutions formatrices des gens de demain. Et si les jeunes sont formés sur la question du papier, de la gestion du papier et de l'importance de diminuer notre consommation de papier, imaginez dans 20 ans là, comment que les compagnies forestières vont faire banqueroute.
Mais d'abord, dans 20 ans, je ne suis pas sûr qu'il va encore rester des compagnies forestières vu le type de gestion qu'ils mettent de l'avant. Quoique avec la commission Coulombe, peut-être qu'on va gagner une couple d'années. Par contre, moi, je souhaite et je fais le vœu. Vous savez, aujourd'hui, c'est la dernière émission de l'Hélium environnemental, alors on est tous un peu fous comme des balais. Moi, je me permets d'être encore une fois idéaliste. Je souhaite que le Québec soit le premier pays assez intelligent, et j'ai bien dit pays assez intelligent, pour produire du papier à partir de fibres d'autres plantes que des arbres, parce que des arbres, c'est long à pousser, c'est compliqué, alors qu'il y a d'autres fibres qui pourraient très bien faire l'affaire, et je vais le dire en ondes. Le chanvre.
Pas le chanvre.
Le chanvre.
Ça, c'est les drogués,
ça. Ça n'a pas rapport. C'est pour faire du papier, pas du papier à rouler, du vrai papier pour écrire.
Je vais boire à ça.
Hey, en drink de date. Au retour, on poursuit la revue de presse, revue de l'actualité pour la dernière de Delirium.
Contrôle la voiture 23, le suspect est dans le bâtiment. Restez prêts à le prendre en filature dès son départ.
On est prêt. Ça fait un an qu'on attend puis que le moteur tourne. Coupe ça, mon grand, on pollue trop.
Préoccupé par les changements climatiques? Fais ta part pour le défi d'une tonne en réduisant ton usage de combustible fossile. Un moteur qui tourne au ralenti pendant 10 minutes par jour peut produire environ un quart de tonne de dioxyde de carbone chaque année. Pour en savoir plus, visite www.faitapart.net parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.
De retour à Delirium environnemental, je m'excuse en notre nom collectif pour la cacophonie. Nous sommes énervés, c'est la dernière de Delirium. L'émotion est tangible. L'émotion est tellement tangible que j'ai glissé dessus et que j'ai même pas réalisé que Nicolas Milo nous avait parlé uniquement de la politique de l'arbre sans vraiment nous parler du premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise. J'en suis émue. Qu'est-ce à dire?
Il y a
quelque chose à dire là-dessus.
La ville de Montréal, qui est sans doute la seule ville au monde qui va mettre des dominos sur son cover de politique de plan stratégique de développement durable.
C'est comme au Monopoly.
Je veux dire, Ottawa, ils mettent des arbres, un train électrique, des affaires de même. Nous, on met des dominos.
Mais c'est songé, c'est le deuxième niveau.
Oui, c'est le début, ça va tout faire.
Est-ce qu'on peut en profondeur? On va en profondeur. Alors. En tournant la page.
Décorum.
Ce qu'on se rend compte, dans le fond, on vous en parle depuis un petit bout de temps. En février, on avait déjà des premières nouvelles. Il y a quelques semaines, on vous a amené un propos sur ce qui allait devenir, eh bien, ce premier plan stratégique de développement durable. Eh bien, depuis la semaine passée, c'est officiel. La ville de Montréal s'est dotée, a adopté ce fameux plan stratégique de développement durable. Un plan dont je n'irai pas trop en profondeur, mais qui vise à améliorer la qualité de l'air, améliorer la qualité des milieux de vie des Montréalais, pratiquer une gestion responsable face à l'environnement, adopter des bonnes pratiques face au développement durable, bla bla bla, et qui vise plusieurs actions, dont d'ici 2005-2006, c'est-à-dire au cours de la prochaine année.
Le transport en vite, commun, ça. Gratuit pour tous.
Eh bien non, malheureusement, on est encore loin de ça, mais préparez-vous à voir, entre autres, le nombre de stationnements au centre-ville diminuer. On sait qu'il y a environ 2000 stationnements illégaux qui traînent au centre-ville et sur lesquels on pourrait, mon Dieu, bâtir des choses beaucoup plus intelligentes que des racks à char.
Étrange, on a besoin d'un plan de développement durable. C'est pour ça. Se débarrasser de stationnements illégaux à la base.
Eh bien, donc, une réduction du nombre de stationnements, une augmentation des pistes cyclables, du nombre de racks à vélo. On veut réduire la circulation sur le Mont-Royal, donc laisser le peu de nature qui nous reste exempte de chars, ou du moins moins touchée par les chars. Et je vois plein de mains qui se lèvent en studio.
parce qu'on a plein de choses à dire.
Ben oui!
Ben, juste peut-être à parler un petit peu de la critique de différents groupes écologistes qui...
Ils critiquent tout le temps.
Ben, les critiques sont très constructives dans leurs critiques d'habitude parce qu'ils amènent justement un certain équilibre dans ce monde, ma foi, déséquilibré. Mais oui, peut-être parler de Stephen Guilbeault qui peut dire qu'on peut être justement difficilement... Oui, exactement. Difficilement dur d'être contre la vertu, mais il faut voir le sérieux justement de la démarche et comment on va passer de la théorie à la pratique. Donc, il y a 700 000 $ réservés, je crois, pour l'implantation.
Dans le budget de l'année prochaine.
Fait que pour Camillien Wood, ils vont faire un pont au-dessus du Mont-Royal?
Et voilà, comme en France, où ils font des ponts par-dessus les vallées. Non, mais dans le fond, ce projet-là en particulier, dans le fond, c'est simple, c'est de réduire l'achalandage automobile sur le Mont-Royal, favoriser que les gens aillent fréquenter des stationnements en périphérie du Mont-Royal, se rendre là par les transports en commun, ou encore mieux, monter à pied. C'est pas l'Everest de Mont-Royal.
Vous savez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que M. Tremblay s'était déplacé au Jour de la Terre, jeudi passé, pour justement présenter ce nouveau plan de développement durable et commenter le travail de son équipe, parce que faut pas se le cacher, c'est pas M. Tremblay qui a travaillé là-dessus, qui a pas planché là-dessus. Malheureusement, il connaît pas très bien les dossiers environnementaux, donc Hélène Fotopoulos et M. De Souza, responsable du développement durable, étaient là, présents, pour justement commenter là-dessus. Ce qui est ressorti, je pense que c'est une question extrêmement pointue de Normand Brunet de l'Institut des sciences de l'environnement qui a demandé à M. Tremblay, écoutez, dans votre présentation de ce plan-là, vous commencez en 2002, vous savez qu'en 2002, c'était le sommet de Montréal, le sommet des citoyens, où est-ce que les gens allaient s'exprimer sur comment on rêve d'un Montréal futur. Et puis, tout commence de là, comme si jamais auparavant, on avait discuté développement durable et même pensé que Montréal pouvait devenir une ville durable. Et puis, la question de M. Brunet était tout à fait d'à propos, puisque en 1991, Montréal était la ville mère du grand colloque international
la
sur la ville haute ou mer. Oui, haute, en fait.
Mer, c'est Mélin qui tremblait.
Haute dans c'est le sens de hôtesse. Là.
Et voilà.
Pour dire qu'en 91,
donc, en 91, on s'est retrouvé à être les représentants internationaux de la ville viable, Montréal, représentante même. Et puis, avec toutes ces belles idées, Jean Doré, jadis présent à la présidence, à la mairie, s'est retrouvé carrément à avoir tout fait ça pour rien, puisqu'on arrive en 2005 avec des travaux qui brettent. Et c'est vraiment ça, on est dans un brettage intensif, bien que le
en
plan
environnement
durable,
général, on est dans un brettage en général, parce qu'on se souvient que ça fait depuis les années 60-70 que les scientifiques crient au loup en disant « Nous allons foncer dans le mur. » Et on doit le répéter que nous allons foncer dans le mur.
En fait, on s'est acheté une coupe de pare-chocs vraiment résistants, puis des casses avec des gros pads, mais on est rendu quand même très proche du mur. Et je pense que le feeling qui est sorti de cette rencontre-là, de cette soirée-là, c'est que malheureusement, M. Tremblay n'a pas la stature pour gérer cette nouvelle vision développement durable. L'ensemble de l'équipe de l'UCIM a probablement un bon mandat, puis je pense qu'il y a quelque chose qui va sortir d'intéressant de ce nouveau plan, qui est vraiment la base même, les assises, le début du développement durable de Montréal, bien qu'on soit en 2005. J'ai hâte de voir comment que ça va s'appliquer sur le terrain. C'est dommage qu'on arrive juste avant les élections pour annoncer ça. Vous savez que les élections vont être en novembre prochain. On a attendu tout le mandat de l'UCIM pour sortir ça. Et puis,
L'UCIM.
L'Union des citoyens de l'île de Montréal. Le parti politique de M. Tremblay. Alors, moi, je suis douteux et un petit peu sceptique. Vous savez que M. Tremblay a pris le métro une fois dans tout son mandat et c'était le jour
sans
voiture. Il a pris le métro et il a constaté que le métro était sale. Vous vous rappelez de ça? Oh,
mon Dieu, il y a plein de papiers partout, ça n'a pas de bon sens. On va mettre des boîtes à recyclage.
Qu'est-ce qu'on n'a pas 8 mois plus tard? Des boîtes à recyclage. Alors, j'invite M. Tremblay à prendre l'autobus sur du parc pour se rendre compte que l'autobus est congestionné et donc d'installer le tramway. Et par la fin même, j'invite M. Tremblay à aller sur Mont-Royal, constater que ça marche pas en char sur Mont-Royal pour qu'on mette une avenue piétonne.
Ça serait tellement fâcheux.
Est-ce qu'on peut l'inviter à aller planter sa tente sur la rue Notre-Dame?
Aussi.
Pourquoi exactement? Okay.
Pour s'apercevoir que c'est pas un endroit très agréable.
En fait, un des gros tests qui va arriver justement avec la ville de Montréal, c'est ce fameux dossier-là de la rue Notre-Dame dont on n'a pas eu eu le temps encore vraiment beaucoup parler. Peut-être Hugo, tu pourras revenir là-dessus parce que je crois que tu t'y connais bien.
Ça fait 5 ans qu'on en parle.
Non, mais je veux dire, tout récemment dans les... Je veux dire, moi, personnellement, à cette émission, j'en ai pas entendu parler depuis au moins 6 mois. Mais,
t'as pas écouté l'émission, la dernière émission, où est-ce qu'Hugo
était
là?
J'écoute jamais quand Hugo est là parce que donc c'est normal. Mais tout ça pour dire que justement, ils veulent faire un genre de semi-autoroute, on ne sait pas trop quoi.
Exactement les mots que Hugo avait pris.
Mais là, c'est parce que ça arrive récemment, excusez, mais ça a lien avec la 25 et tout ça.
Bien bon, sûr.
Le prochain test que je disais, c'est avec ça.
Qu'est-ce que c'est la 25?
Bon, quelqu'un
on se dit qu'on peut remettre ça à un prochain bloc et j'aimerais juste finaliser sur le fameux plan stratégique de développement durable. Deux bonnes choses qu'on peut dire. Un, ça sert de base. On a sur quelque chose sur quoi travailler. Quelque chose de positif. Et deuxième chose, c'est qu'en construisant ce plan-là, eh bien, on a intégré des gens. On n'a pas juste travaillé dans son petit cocon à la ville, puis on a essayé d'intégrer des gens du milieu. C'est des bonnes choses. Maintenant, il faut que ces choses-là donnent de quoi. Alors, M. Tremblay ou son successeur, allez-y, on vous regarde.
Mettez vos culottes!
C'est quoi, 80 groupes ont participé?
Ah, c'est beau la démocratie.
Ah, mais qu'est-ce qui se passe, mon amour? Ça n'a pas l'air dans ton assiette.
Ah, je m'excuse, mon amour. J'ai vraiment de la misère à me concentrer.
Ah, mais est-ce que c'est mon nouveau parfum qui te dérange?
Non, mais en fait, tu vois, c'est toutes les lumières allumées pour rien dans l'appartement. Là. Imagine le gaspillage.
Préoccupé par les changements climatiques? Fais ta part pour le défi d'une tonne. Procure-toi les ampoules éco-énergétiques. Elles consomment 2 fois moins d'énergie et durent 4 fois plus longtemps. Pour en savoir plus, visite le www.faitapart.net. Parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.
De retour à Délirium environnemental, le magazine radio d'information en environnement, pour la dernière fois.
Je vous invite à visiter le site www.faitapart.net. La capsule qu'on vient d'entendre est disponible et downloadable.
Et c'est beau, c'est vrai, j'avais oublié de dire ça. Ça, vous pourriez accéder à partir de la bannière sur le www.radiodelirium.net ou directement à partir du faitapart.net.
Vous pouvez aller sur Google aussi puis mettre faitapart.
Ça marcherait bien comme dans toi, faitapart, donc F-A-I-S-T-A-P-A-R-T.
Moi, je vous arrête.
Je me répète, on est un peu excited aujourd'hui du mot excité en français parce que c'est la dernière de Délirium environnemental, la dernière d'une grande aventure qui dure depuis, ma foi, 3 ans déjà. On poursuit donc notre revue de l'actualité, revue de presse. Parce que c'est ce qu'on a fait pendant 3 ans, faire de la revue de presse, revue de l'actualité en environnement. Vous allez me parler de ce projet qui fait dresser les cheveux sur la tête des environnementalistes et des écologistes et de tous ceux qui sont un peu sensés, qui sont tannés de faire du bout de tuyau. On prévoit d'allonger une route qui s'appelle la 25 et c'est, ma foi, hautement problématique.
Ben oui, la fameuse 25, on vous a jeté quelques pistes tantôt en vous parlant de la rue Notre-Dame, parce qu'il y a un lien entre la rue Notre-Dame et la 25. La 25, c'est dans l'est de l'île, et ce serait un prolongement entre Montréal et Laval, et la Notre-Dame est dans le sud, donc les deux se toucheraient. Et évidemment, le problème avec la 25, c'est que là, on s'en va en bureau d'audience publique pour étudier justement l'idée de faire un nouveau pont et une nouvelle autoroute. Je vous rappelle rapidement ce qu'il en est. Tout ça pour amener davantage de véhicules à Montréal. Et évidemment, c'est le prochain dossier chaud. En fait, il y en a plusieurs dossiers chauds. Je dirais que c'est un autre dossier sur lequel les écologistes vont se mobiliser au cours des prochains jours et de l'été, parce que M. Mulcair a décidé de ne pas amener ce projet de la 25 au bureau d'audience publique dans la période d'information. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe avec le budget en termes de termes précis dans le budget. Donc, la part du privé, qui est le privé, quel est le projet exact. Exactement.
Donc, c'est scandaleux.
Non, mais c'est seulement cette partie-là qui a décidé de ne pas amener au bas, parce que sinon, le projet de la 25 va passer par
le projet va passer, exactement, mais il va passer par ce qu'on appelle un fast track. Donc, le fait d'enlever cette période de 45 jours-là d'information sur le projet permet de passer...
depuis la création du BAP, en passant.
Une première...
Mulcair, hein, il y a beaucoup d'influence, surtout avec ces petits mots anglais, fast track pour voie rapide.
C'est de l'audace au cube, mesdames et messieurs.
Donc, encore une fois, on va braquer les différents groupes écologistes parce qu'il y a toute une coalition, donc la CSM, la Commission scolaire de Montréal, qui a d'ailleurs prononcé des mots, s'est prononcé contre ce projet la semaine passée, c'est quand même un gros joueur, et il y a toute une coalition d'écologistes qui est mobilisée présentement, mais là, en raccourcissant la période pour de préparation d'installation pour le BAP, eh bien, on se demande à quel point c'est quand même beaucoup de ressources pour ces fameux groupes-là. On vous encourage, entre autres, à encourager ces groupes-là parce que la plupart cherchent toujours de l'argent. Vous savez qu'on parle souvent de coupures au niveau du ministère. Cachez-vous pas qu'il y a des impacts de ces coupures-là sur les groupes environnementaux. Je pense, entre autres, à plein de groupes, mais...
c'est vrai que c'est une belle habitude à prendre, puis je pense que c'est important. Pour ceux qui nous ont suivis depuis longtemps, vous vous êtes peut-être aperçu comment souvent les sonneurs d'alarme étaient les groupes environnementaux. Bon, excusez-moi, c'est l'émotion. Comment les groupes environnementaux faisaient souvent un travail de fond, de recherche, d'éducation, de sensibilisation, allaient justement relancer les pouvoirs publics sur certains enjeux. Puis je pense que c'est une belle invitation, Patrick Bonin, que tu fais à ce sujet-là. C'est vrai que si vous avez un 5$, un 10$ à donner à une cause par mois, vous pouvez donner à des groupes environnementaux qui souvent ont des systèmes de prélèvement automatique dans vos comptes en banque. C'est très le fun.
Puis ce qui rajoute aussi au pathétisme de cette partie-là qui propose des projets tels la 25, tels Notre-Dame, c'est que c'est des projets qui datent des années 70. Dans le temps, on avait une optique pour Montréal de développer le transport en deux circuits différents, c'est-à-dire une autoroute ou un circuit d'autoroute relativement circulaire dans le centre-ville, c'est-à-dire des carrés, le tunnel Ville-Marie, Notre-Dame, la 25 et la 40 au nord, et d'avoir un réseau plus grand à l'extérieur de Montréal, sur la rive sud, à Laval, et de faire en sorte qu'il y ait un périphérique montréalais, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Mais le problème, c'est que les idées qu'on nous propose, c'est encore appuyé par les arguments des années 70, alors que la réalité montréalaise a complètement changé. Aujourd'hui, on parle d'étalement urbain, de fait qu'on doit réduire le transport routier, et on nous sort encore les mêmes maudits plans d'il y a 30 ans. Et ça, c'est pathétique.
Juste pour vous donner un exemple concret, on parle de 150 000 nouveaux déplacements de véhicules à chaque jour.
Donc ça, c'est sur la 25.
Ça, c'est sur la 25, exactement. Et je vous invite à aller voir radiodelirium.net où vous allez avoir un lien pour le Conseil régional en environnement de Montréal qui milite très fort justement contre la construction de la 25. Entre autres, 10 points qui vous dit pourquoi vous devriez être contre si vous n'êtes pas convaincu et une possibilité d'envoyer un courriel, une lettre, en fait, à nos fameux gouvernementeux.
Et à ce sujet, moi, pour le plaisir de le faire, je suis allée chercher quelques nouvelles en les titrant. C'était il y a un an. Eh bien, il y a un an, le gouvernement Charest, de M. Charest et M. Charest en personne, continuait de défendre le projet du Suroît. Donc, sachez qu'en se mobilisant fortement, toute la population, nous pouvons le faire changer d'idée, entre autres sur des projets aussi insipides et insignifiants que celui de la 25. De retour à Délirium environnemental, la dernière revue de presse, revue de l'actualité. C'est déjà la fin, donc c'est les brèves cette semaine pour la dernière fois. Commençons par ces nouvelles si absurdes que nous avons lues cette semaine. Hugo, du Colgate toxique.
Ben oui, imaginez-vous donc, il y a un produit dans le Colgate qui s'appelle le triclosan. C'est un produit qu'on utilise aussi dans les savons antibactériens. Et là, il y a des gens à l'université de Virginia Tech aux États-Unis qui se sont aperçus que lorsque le produit triclosan dans le savon antibactérien, lorsqu'il était mélangé avec l'eau du robinet qui contient du fluorure ou qui contient plutôt du...
excusez-moi. Du chlore.
Eh bien, ce triclosan se transformait en chloroforme. Vous vous rappelez dans Tintin quand on met un mouchoir sur la face de quelqu'un puis il tombe endormi? Le chloroforme qui a été nommé par l'Environmental Protection Agency un des cancérigènes humains fort probable. Eh bien, on s'aperçoit qu'il pourrait se trouver dans la pâte à dents Colgate. Pour tous ceux qui se brossent les dents, pensez-y bien.
Donc arrêtez de vous brosser les dents.
Colgate démenti tout.
Prochaine nouvelle?
Eh bien, moi, je poursuis avec la compagnie Barrick Gold, qui, mon Dieu, comprend pas pourquoi Barrick Gold, qui a le projet farfelu, eh bien, de déplacer trois glaciers dans les Andes pour aller exploiter une mine d'or. Mais la ils comprennent pas. Tout le monde est d'accord. T'sais, c'est tellement bien. T'sais, on a eu toutes les études d'impact possibles. On a l'accord de tout le monde. Il y a encore des gens qui s'opposent à ce qu'on, je le rappelle, déplace trois glaciers de 10 mètres d'épaisseur pour aller domper la glace sur un autre glacier.
D'une façon ou d'une autre, ils vont fondre.
Trois glaciers qui, justement, en fondant, vont fournir de l'eau pure à les habitants qui habitent au bas de ces montagnes.
Ils achèteront de la naya.
Ils vont irriguer les champs où elles sont faites pousser plein de beaux fruits.
La conclusion, boycotter Barrick Gold. Arrêtez d'acheter de l'or, ça n'a pas de bon sens comme marché. Ouais,
oui, c'est mou.
Catastrophe. Hey, pendant qu'on est en Amérique du Sud, je vais vous parler du Brésil et la certification possible du soya poussé en Amazonie. Vous savez que le soya cultivé, oui, merci. Le soya est rendu la deuxième cause de déforestation en Amazonie après le bétail. Et puis ce soya qui est si friand, si prisé, pardon, chez les végétariens, eh bien, cause de grands problèmes. Eh bien, on est en train de négocier pour une certification de soya eco-friendly, donc gentil pour la nature, soya qui n'aurait pas provoqué de coupe de nouvelles forêts. C'est la grosse organisation de Nature Conservancy qui est en train de négocier ça. Alors, suivez ça.
Peut-être rappeler que beaucoup de soya est maintenant transgénique, genre de l'ordre de 50% des cultures de soya mondiales sont rendues transgéniques, genre OGM, pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est aussi à garder à l'œil, même quand nous n'y serons plus.
Peut-être juste rappeler que vous pouvez acheter du soya made in Québec et regarder sur votre soya, c'est marqué
biologique.
C'est fait biologique. Eh bien, ça coûte pas nécessairement plus cher et ce sera pas OGM. Mais ça me tente de vous parler d'hydrogène. Ça n'a aucun lien avec le soya, mais c'est de l'énergie, je vous l'ai promis. Et le voici, Île-du-Prince-Édouard, une province qui deviendrait la plus verte du Canada peut-être. Un projet de fabriquer de l'hydrogène à partir d'énergie des éoliennes. On fait tourner des éoliennes et vous savez, avec de l'électricité, on peut fabriquer de l'hydrogène à partir de l'eau. Donc l'idée de ça, c'est de faire, dans les prochaines années, dans les trois prochaines années, de produire de l'hydrogène pour alimenter des véhicules, des bateaux et des maisons pour avoir de l'énergie propre. Ce qui est intéressant, c'est vu que le vent tourne, ne pollue pas, eh bien, on aurait une boucle qui permettrait d'avoir d'énergie à l'infini propre.
Wow! Infini propre! Eh bien, les tout-petits, vous aimez ça aller au zoo? Eh bien, allez au zoo de Granby, car le zoo de Granby vire au vert. Eh bien, oui, depuis un an, le zoo de Granby, eh bien, vise des attitudes plus vertes ou environnementales et a réduit sa consommation d'eau de 45%, pour vous dire, là, c'est 220 000 mètres cubes d'eau qu'on a utilisé de moins en 2004. Sauf qu'en même temps, les tout-petits, j'amène la réflexion suivante. C'est un zoo. Est-ce que la biodiversité, protéger la biodiversité, ça veut dire enfermer des animaux dans des cages?
Non, les oiseaux, c'est pas fait pour être en cage.
Non.
Et tous ceux qui ont une carte du monde, un globe terrestre sur leur table de chevet, vous devez la changer puisque l'Antarctique n'existe plus sous la même forme que vous la connaissez. Eh bien, le gros iceberg B15A vient de foncer dans l'Antarctique et vient d'y manger un chunk de 3 km de long. 3000.
Ça, c'est de la nouvelle.
Mais Batman, quel est le bruit qu'on entend?
Robin, je crois que c'est la bombe. La bombe à retardement. Le changement climatique.
Bombe à retardement? Changement climatique? Mais de quoi tu parles, Batman?
Le réchauffement de la planète. Je ne sais plus ce qui arrive, Robin. Ça va péter, je crois.
Mais voyons, c'est pas sérieux, ça va pas péter.
Les changements climatiques te préoccupent? Fais ta part pour le défi d'une tonne. Contribue à la lutte au changement climatique en prenant une douche rapide au lieu d'un bain. Une douche de 5 minutes nécessite jusqu'à 50% moins d'eau chaude qu'un bain. Pour en savoir plus, visite le www.faitapart.net parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.